Jean 17.
Oh man, ça, ça tient pas bien. Moi, je vais organiser ça.
OK, Jean 17. Il y a juste un verset que j'aimerais lire, juste pour commencer, parce qu'on va en lire à travers le message. On a déjà lu le chapitre au complet. Regardez le verset 22. « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un comme nous sommes un. » On va voir ce qui nous unit en tant que peuple de Dieu ce matin. Vous allez voir non seulement la gloire de Dieu, mais sa vie, sa parole. Quel extraordinaire passage de la parole de Dieu. J'aimerais qu'on prie, puis ensuite on va ensemble considérer des choses dans ce chapitre extraordinaire. Merci Seigneur pour ta parole. Merci que tu es le vrai Dieu, le seul vrai Dieu, tu es la vérité. Seigneur, en toi, il n'y a aucun mensonge, aucune tromperie. Quelle joie! Ce monde est trompeur, notre cœur est trompeur. Tout dans ce monde, Seigneur, mais toi, tu es un refuge. Tu es le rocher inébranlable. Tout le reste, c'est du sable mouvant. Mais Seigneur, on te remercie qu'on peut venir à toi et asseoir nos vies sur le fondement éternel de ta parole, de Christ, de sa rédemption. Béni sois-tu, Seigneur, qu'on peut considérer ensemble ces choses et cette vérité merveilleuse sur ton Église, ton corps, qu'on va considérer ce matin. Ouvre nos yeux, nos cœurs, notre intelligence. On te le demande au nom de Jésus. Amen. Amen. Dieu révèle l'héritage de l'Église. Vous savez, je l'ai dit tantôt, c'est tout qu'un passage de la parole de Dieu, un joyau, où le Fils, le souverain sacrificateur, intercède, prie pour son Église, l'épouse, son corps. Le chapitre se divise en trois, de façon assez simple. Dans les versets 1 à 5, il prie pour lui-même, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Ensuite, dans les versets 9 à 11, il prie pour les apôtres et les disciples de son temps, afin que le Père... quand il prie pour lui-même, c'est pour que le Fils glorifie le Père, quand il prie pour les apôtres, c'est que le Père soit glorifié dans le Fils à travers eux. Et ensuite, il prie pour tous ceux qui allaient venir plus tard, ça nous inclut. Christ a prié pour nous ici, à partir du verset 20 au verset 26, encore avec cette gloire du Père qui veut qu'il soit dans tous ses enfants. Le point commun de toute cette prière et ses requêtes, c'est qu'il recherche la gloire du Père. En ce sens, il demande pour lui, mais aussi pour nous, d'être placé dans des circonstances qui vont glorifier Dieu par le salut, la délivrance que lui opère. Ça ne veut pas dire le confort puis que tout est facile, tout est bon, mais ça veut dire qu'il nous place là où Dieu va être glorifié. Oui, dans notre faiblesse, oui, dans les afflictions, mais où est-ce que Dieu va avoir la gloire? Il demande aussi de nous rendre propres à le glorifier, notre Père céleste, en étant des agents de la mission de salut que lui est venu accomplir. Notre vie, ce n'est pas par rapport à nous. C'est tout par rapport à ce que Dieu fait dans son Fils Jésus-Christ, cette mission que le Fils est venu accomplir. Nous en faisons partie. Lui qui est venu nous délivrer de notre condition misérable, il veut aussi accomplir cette mission à travers nous, à la gloire du Père. Il prie aussi d'amener ses enfants dans une parfaite unité spirituelle, en esprit et en vérité, afin que le Père soit glorifié au plus haut point par ce salut transformateur au plus haut point. C'est la restauration de l'adoration collective. Ça donne suite à ce qu'on a déjà vu, la suite logique. Vous savez, on a vu dans le premier message qu'avec la vie de Christ, il restaure notre adoration intérieure. Nous étions morts dans nos offenses et nos péchés, mais il nous a donné la vie. Et donc, sa rédemption nous redonne la vraie adoration. Puis on a vu la semaine passée, l'adoration relationnelle, c'est pas juste nous tout seuls, ça commence aussi dans la famille. Puis là, on est rendu au niveau collectif en tant qu'Église. Tout ça, c'est la rédemption de notre Dieu qui restaure l'adoration en esprit, en vérité, dans tous ces domaines-là. C'est la continuité par rapport à notre thème d'octobre, où est-ce que ça a été cité aussi dans Éphésiens, que Dieu nous donne un esprit de sagesse et de révélation pour qu'on voit quel est l'héritage que nous avons. L'héritage que le Père a donné à son Fils et dont nous sommes aussi nous avons part parce que nous sommes co-héritiers. Le Fils est l'héritier de toutes choses et en lui nous sommes co-héritiers. Et c'est dans ce sens-là qu'on regarde aujourd'hui l'héritage de l'Église. Et ce texte unique et merveilleux où on a le privilège de voir cet entretien entre le Père et le Fils nous révèle 7 dons, ok? Parce qu'on parle de l'héritage. Le Père a fait 7 dons au Fils. Il lui a donné tout pouvoir au Fils afin qu'il donne la vie. Il a aussi donné une œuvre à faire, l'œuvre de rédemption pour libérer, tantôt pour donner la vie, c'était verset 2, verset 4, cette rédemption qui libère les esclaves. Verset 6, il a donné un peuple à sauver afin qu'il garde sa parole. Le Père a aussi donné sa gloire au Fils afin de nous donner accès à cette gloire, verset 22. Et pour nous, il nous a donné la vie éternelle en son Fils, afin que nous devenions participants de la nature divine. Verset 2 nous parle de cette vie éternelle. Aussi, le Père nous a donné sa parole, afin que nous y croyions. Verset 8. Et enfin, il nous a donné sa gloire même. Verset 22, on l'a lu. Afin que nous soyons un dans cette unité spirituelle. Les 3 derniers éléments, ça va être le sujet de notre message. Les 3 héritages propres à l'Église, la vie, la parole et la gloire. Donc le premier héritage, l'héritage de la vie au verset 2, regardez le verset 2. Selon que tu lui as donné tout pouvoir, que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à ceux que tu lui as donné. La vie de Jésus-Christ donnée par le Père est non seulement notre plus grand héritage, on a déjà fait un message au complet là-dessus pour dire comment c'est important, mais c'est aussi une des 3 sources de notre unité spirituelle. C'est un facteur d'unification de l'Église du Dieu vivant. Cette vie est ce qui nous unit. On n'est pas un club social glorifié, on n'est pas une espèce de « nous, on a la meilleure idée que cette religion-là ». Non! On est le temple du Dieu vivant. On a la vie, nous qui étions morts. C'est ce qui nous unit. On était tous morts, puis là, on est rendus à la vie. C'est Dieu qui nous unit comme ça. C'est surnaturel. C'est pas religieux, c'est divin. Et une église comme ça, comme la nôtre, et l'endroit où Dieu, une église locale comme la nôtre, où Dieu amène d'une façon unique sa présence, fait grandir aussi cette vie pour nous protéger des pièges de la mort. Vous savez que c'est la plus grande bénédiction de ce qu'on a vu depuis 2020-2021, puis qui vraiment nous fait nous réjouir dans le Seigneur, c'est que Dieu a fait exploser sa vie en notre milieu pour nous délivrer du légalisme, du formalisme, du laxisme, de l'autosuffisance, de l'aveuglement spirituel de notre propre orgueil et de notre propre incrédulité. N'est-ce pas que ça valait la peine d'être sorti de notre zone de confort puis de faire un peu de dissonance cognitive? Moi, ça ne me dérange pas, parce que le prix est tellement merveilleux. C'est ça, la vie de Dieu. Dieu nous a rendus à la vie, il nous a réveillés, on est en train de mourir. Puis Dieu nous a ramenés à la vie. Et n'ignorons pas, mes amis, les tendances de la chair qui sont néfastes et mortifères. Elles amènent la mort. Et nous savons que l'ennemi veut se servir de ça, de ces tendances de la chair, pour détruire. Paul en parle aux Corinthiens, chapitre 2, versets 10 et 11. « Ah, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose... » C'est à vous, en présence de Christ. Vous rappelez qu'on a parlé de l'amertume la semaine dernière, comment ça détruit, c'est la chair, mais le pardon. Pourquoi? Parce que ça dit au verset 11, « Afin de ne pas laisser Satan l'avantage sur nous, car nous n'irons pas ses desseins. » Satan veut servir de cette chair pour essayer de détruire la vie que Dieu veut qui règne dans nos vies personnelles, nos familles et cette Église. Connaissez va peut-être vous rafraîchir la mémoire, mais dans 2 Chroniques au chapitre 5, on a lors de la dédicace du temple, ça nous décrit l'événement et au verset 13 et 14, ça dit que Lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et qui chantaient, ok, ça c'est toute la célébration de cette dédicace. Lorsque tous ceux qui avaient les trompettes et qui chantaient s'unissaient d'un même accord pour célébrer et louer l'Éternel, firent retentir les trompettes, les cymbales, les instruments et célébrèrent l'Éternel par ses paroles, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. En ce moment, la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. Les sacrificateurs ne purent y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. Ils étaient unis d'un même accord à célébrer et à louer l'Éternel. L'unité du peuple de Dieu dans la vie que nous célébrons en Jésus-Christ, le célébrer lui, le louer lui, d'un même cœur, d'une même pensée, c'est le moyen par excellence pour que sa présence même se manifeste au milieu de nous autres. C'est ce qui est arrivé du temps du temple de Salomon. Sa présence même, c'est sa vie par le Saint-Esprit. Dieu se manifeste au milieu de son peuple qui le loue. Il y a un verset dans Éphésiens qui dit que Dieu habite au milieu des louanges de son peuple. C'est la grande puissance de l'unité spirituelle. C'est la présence même de Dieu qui insuffle sa vie, qui fait triompher par sa capacité à expulser justement cette puissance de la mort. Et l'église locale est un lieu spécial et désigné pour exalter la présence manifeste de Dieu sur la terre. Les gens qui viennent dans cette église ne devraient pas dire « Wow, ils sont donc bien beaux, ils sont donc bien faits. » Ils devraient dire « Wow, quel Dieu !» et tomber sur leur face. Parce que c'est Dieu qui est ici, dans cette place. Et lorsque nos cœurs sont unis, le cœur du peuple de Dieu est un seul, c'est là que vraiment on adore. Vous savez, des fois on fait l'adoration quelque chose de personnel. Ah, j'adore Dieu, je suis dans le... Non, mais ici, il y a une adoration collective. D'une voix, on chante. D'une voix, on prie. D'un cœur, on donne à Dieu. D'un cœur, ça fait toute partie de l'adoration. Ici, on est tous un au pied du Seigneur à écouter sa parole à travers un serviteur qui proclame sa parole. C'est ça la vie de Dieu au milieu de son peuple. D'où l'importance vitale, vitale comme dans la vie de Jésus-Christ, d'avoir par lui les uns les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Vous savez, notre accès à Dieu, à sa présence, c'est vraiment cette unité de cœur, pas d'apparence, pas cette uniformité, cette unité spirituelle qui vient de Dieu lui-même. C'est pas quelque chose qu'on crée, c'est quelque chose que Dieu donne par sa vie. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Quand on est ensemble, qu'on a la vie de Christ, c'est ça qui nous unit. C'est le Christ lui-même, sa vie. Et ça, mes amis, il y a quelque chose de tellement puissant. Une église comme nous autres, comme la nôtre, animée par la vie de Christ, est une place où Dieu opère sa rédemption pour bénir ce monde, l'influencer pour son royaume par la puissance d'une vie, d'un amour inaltérable. Écoutez ce que Paul prie aux Éphésiens en terminant le dernier verset d'Éphésiens. « Que la grâce soit avec vous, avec tous ceux qui aiment le Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable, un amour qui ne change pas. » Ça, mes amis, c'est la puissance dominatrice de la vie. Elle expulse les œuvres de la chair. Elle expulse la mort. Vous savez, c'est comme ça que la chrétienté a changé le monde dans lequel on vit. C'est pas avec les armes charnelles de essayer de changer le monde avec toutes sortes de manifestations ou essayer de faire telle chose. Non, c'est avec des armes qui sont puissantes en Dieu pour renverser les forteresses, la parole vivante de Dieu, la prière des saints. Ces choses-là ont changé, proclamer la délivrance qui est en Jésus-Christ. C'est ça qui a changé notre monde pour le mieux. Et c'est tellement précieux. La vie, l'héritage de la vie que nous avons, que nous devons le garder précieusement, plus que tout. C'est ça qui est en jeu en ce moment. En ce moment, ce qu'on vit, c'est Satan qui veut étouffer, qui veut répandre. Satan, c'est la mort. Il veut répandre la mort. Nous, on doit se tenir ferme dans cette vie. Tu sais, dans Éphésiens chapitre 6, quand ça parle de la guerre spirituelle, remarquez, là, on a fait juste dans les versets 10 à 13, comment ça dit de tenir ferme dans le mauvais jour, tenir ferme, tenir ferme, tenir ferme. C'est-à-dire que nous avons la victoire, nous avons la vie. On doit tenir ferme pour garder ce territoire. Satan veut essayer. Satan est déjà vaincu. Satan ne peut pas nous enlever ce qu'on a en Jésus-Christ, mais nous, on veut demeurer ferme dedans.
Amen.
Il y a quelque chose qui m'a... Vous savez, cette semaine, j'ai vécu quelque chose à cause de mon choix personnel à ne pas vouloir me faire forcer à une injection. Je suis menacé de perdre ma place comme aumônier protestant à Donnacona. Puis là, j'ai rencontré quelqu'un pour dire ça. Je demande une exemption. Puis j'ai dit, pas contre les vaccins. J'ai eu des vaccins. Puis, mais je compte le fait de forcer, puis tout ça. Puis là, je leur ai expliqué un peu mon affaire. Puis le gars, il m'écoutait, puis ça. Puis il dit, ah, vous êtes quelle religion, vous autres? Puis là, puis voici ce qui m'a tellement attristé. Il dit, il n'y a personne qui nous a jamais rien dit. Il n'y a personne qui s'est plaint. Il n'y a personne qui a dit rien. Savez-vous quoi? Je pense qu'il n'y a personne qui s'est tenu. Puis là, lui, il disait, c'est un gars, c'est un non-sauvé. Lui, il était autant musulman que chrétien. Ou t'sais.
Personne ne s'est tenu.
N'est-ce pas que Dieu cherche quelqu'un qui se tienne à la brèche, pas contre les vaccins, mais pour Jésus-Christ, pour la vérité, pour sa vie? C'est ça qui est en jeu. La mort veut essayer d'en venir de tellement de façons. La mort des inquiétudes, la mort de la peur, la mort de toutes ces choses-là. Et on doit se tenir ferme dans cette vérité. Écoutez ce verset précieux des Écritures. Dans Apocalypse chapitre 12, versets 10 et 11. Et j'ai entendu du ciel une voix forte qui disait « Maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. » Car il a précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est ça le combat des saints. C'est ça que les enfants de Dieu, c'est comme ça qui participent à la victoire, qui ont déjà en Jésus-Christ par le sang de Christ et par la parole. Et c'est à ça qu'on est appelé à se tenir. Faites-en pas des choses juste compartimentées, le vaccin, le ci, puis ça. C'est la vie versus la mort. Comme ça dit dans Deutéronome 30, si je ne me trompe pas, « Je mets devant toi la mort et la vie. Choisis la vie. Nous sommes le peuple de Dieu. Nous avons l'héritage de la vraie vie, impérissable, éternelle, la seule qui est la vraie. » On doit se tenir dedans. Puis en passant, comme j'ai dit, moi, que quelqu'un fasse un choix ou l'autre, ça ne dérange pas. Mais en fond, c'est juste la question pour nous, le peuple de Dieu, est-ce qu'on se tient dans cette vie? Et c'est vraiment ça qui est important. Ça mène au deuxième héritage. Non seulement celui de la vie, mais au verset 6, on voit l'héritage de la parole. Regardez dans Jean 17, verset 6. « J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Ils étaient à toi, tu me les as donnés et ils ont... Gardez ta parole. » Vraiment? Ils ont gardé ta parole. Jésus dit ça, là, Jean 17, là, s'est rendu la chambre haute. Puis pour ceux qui ont tous vu ce qui s'est passé avant, on se dit, pour moi, Jésus, il y a des affaires qui ne s'est pas rendu compte. Puis je ne veux pas dire ça de façon irrévérencieuse, mais c'est, attends un peu, là. Quand on regarde les évangiles, les nombreuses fautes des disciples, on se dit, coudonc, ils n'ont pas vraiment gardé la parole. Combien on peut facilement nous-mêmes tomber dans le rôle de l'accusateur des frères en disant « Ben voyons donc, ils ne l'ont pas eu pantoute, ils ne l'ont pas gardé ben ben. » Parce qu'on les voit dans leur faiblesse, on les voit avec une foi, une confiance chancelante. Même plus que ça, on les voit des fois dans au pire d'eux-mêmes et au pire du moment de Jésus, ils l'ont tout abandonné. Puis, le leader d'entre eux avait dit « Non, ça ne va jamais arriver. » Mauvaise confiance en lui-même. Ils ont gardé ta parole. Jésus parle avec des termes très honorants ici. Pourquoi? Je pense qu'il y a une grande leçon de réconfort là-dedans. C'est évident qu'ils ne l'ont pas gardé parfaitement comme ils devaient. Mais Christ voyait l'œuvre de Dieu en eux. Et il les voyait à travers sa grâce, à travers la justice imputée. Et donc, oui, ils avaient gardé. Pas parfaitement comme si tout dépendait d'eux autres. Mais ils étaient accrochés à Christ comme étant leur vie, justement. Comme ses paroles comme étant les paroles de vie. Qu'on ne voit pas ici, ils ont gardé tes paroles. Comme, ah, ils ont tous gardé chaque iota de la loi. Non, pas aucun d'entre eux. Mais par la grâce de Dieu, ils sont accrochés à Christ comme étant leur vie. C'est comme ça qu'ils ont gardé la parole. Et rappelons-nous de ça, mes amis.
Satan vous dit de nous accuser. Ah, t'as vu, t'as pas gardé la parole là, puis toi là, ici, puis ça. Ah. Mais savez-vous quoi? Un enfant de Dieu, c'est pas qu'il garde toutes les iotas de la loi tout comme il faut, c'est qu'il s'accroche à Dieu comme étant sa vie, comme étant celui, c'est ça, garder la parole. On s'accroche aux paroles de Dieu. Et c'est notre héritage merveilleux, mes amis. Et n'est-ce pas ce que Satan veut faire? Il veut accuser, mais on se remet tout le temps au sang de Christ, qui est notre justice, il a donné sa vie, afin qu'on puisse vivre. Et la parole du témoignage, on se rappelle des promesses de Dieu qui sont inchangeables et qui sont sûres et certaines. C'est ça notre confiance. C'est pas que nous, on le garde par nos propres efforts, c'est qu'on s'accroche à ce Dieu fidèle qui se révèle comme il est dans sa parole. Wow! Quelle merveilleuse leçon! Et ça m'amène au verset 17. « Sanctifie-les par, ta vérité, ta parole est la vérité. » On voit ici la puissance sanctifiante de la parole de Dieu, de nous mettre à part du reste du monde, qui est condamné à tout point de vue, mais dont nous sommes tenus à l'écart par la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Vous savez, la parole, c'est comme un grain de sénévé qui possède la vie en elle-même, qui a le potentiel divin. C'est comme ça que Dieu sanctifie son peuple, cette parole vivante. C'est ce qu'on voit dans le livre des Actes. Écoutez ce que ça dit dans Actes des Apôtres au chapitre 2, verset 42. « Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. » Puis là, ça parle de la crainte s'emparer de chacun et tout, ça continue. Ces éléments qu'on voit, enseignement des apôtres, communion fraternelle, fraction du pain, les prières, tout ça nous amène à la centralité dans l'Église primitive de la parole. C'est l'élément unificateur. Un autre, la vie nous unit, mais la parole aussi. La parole, c'est la parole de la promesse de Christ, sa rédemption. C'est la révélation de Dieu, c'est ça qui unit le peuple de Dieu. On n'est pas unis ensemble parce qu'on est tous pareils. En fait, on est unis ensemble parce qu'on est tellement différents, mais qu'on croit à la même parole de vie à laquelle nous avons cru. Et que rien ne puisse détourner nos regards de celui qui est révélé dans la parole. Et là-dessus, je vais vous amener une autre illustration qui nous vient du livre des Nombres, au chapitre 32. Vous savez qu'il y avait deux tribus, en fait deux tribus ennemies qui voulaient prendre le plateau de Golan, là, la tribu de Gad et des fils de Ruben. Et écoutez ce que ça dit dans Nombres 32, à partir du verset 6. Ici, c'est Moïse qui parle aux fils de Gad et aux fils de Ruben. « Vos frères iront-ils à la guerre et vous resterez-vous ici? Pourquoi voulez-vous décourager les enfants d'Israël de passer dans le pays que l'Éternel leur a donné? » Ainsi firent vos pères. Quand ils envoyèrent de Kadès-Bernéa pour examiner le pays, ils montèrent jusqu'à la vallée d'Échol, et après avoir examiné le pays, ils découragèrent les enfants d'Israël d'aller dans le pays que l'Éternel leur donnait. Moïse rappelle, tombez pas dans le piège des espions qui ont vu le pays, le bon pays, il y avait des grappes de raisins énormes, mais quand même, ils ont regardé à ça au lieu de regarder à l'Éternel. Moïse leur rappelle, avec les événements historiques passés, que le fait de marcher par la vue et non par la foi est un grand danger pour tous, et ça, que ce soit à regarder à des bonnes choses ou des mauvaises choses. Ils regardaient les bonnes choses ici, les deux tribus avaient des belles terres, c'était bon pour les troupeaux. Puis la même chose, les espions voyaient un bon pays pour eux autres. Mais le fait de regarder à ça, même si c'était aussi bon que c'était, des fois ça peut être mauvais comme à Caen qui a regardé au lingot puis au manteau. Là. Le fait de regarder aux choses d'ici-bas et cette puissance spirituelle néfaste qui nous enlève, nous détourne les yeux de sur Christ. Et qui nous enlève les yeux de celui qui nous dit « Arrêtez, sachez que je suis Dieu, je domine sur les nations, je domine sur la terre. » Pour ceux qui ont eu peur de rentrer dans la terre promise, ils voyaient les géants plus grands que le Dieu qui avait fait ces géants. Et Ésaïe commence à nous dire majestueusement « Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu, il n'y en a point d'autre. » C'est ça qui est notre courage. On comprend de cette manière que ne pas regarder à Dieu, c'est pas neutre. Quand je regarde à autre chose que Dieu, c'est une puissance active qui me détourne de lui, que ce soit quelque chose de bon ou quelque chose de mauvais. En ce sens, une église locale comme la nôtre est un instrument rédempteur actuel de Dieu dans ce monde. Et c'est pourquoi c'est une institution divine essentielle qui est le seul espoir dans ce monde, parce que ça nous ramène au Dieu vivant. La parole est prêchée, la parole est vécue, la parole est mise de l'avant avec tout ce que ça implique. C'est une entité divine qui a été mise par Dieu sur terre pour sa gloire, pour l'avancement de son royaume. C'est un endroit par excellence où est-ce que l'héritage de la parole est enseigné, exalté, vécu de façon unique. Oui, on peut vivre ça chez nous, mais il y a quelque chose de spécial avec l'église locale qui est irremplaçable.
Amen.
Pourquoi? Parce que c'est ici qu'on vit cette restauration de l'adoration collective. Oui, on a une adoration personnelle, on a une adoration familiale, mais celle collective ici, elle est vécue d'une façon unique qui ne se trouve pas ailleurs. Et mes amis, lorsque cette adoration collective a lieu en esprit puis en vérité, c'est une façon puissante et exceptionnelle d'expérimenter l'héritage de l'Église, d'Église glorieuse. Et ici, je vois au-delà de juste l'Église locale, le corps de Christ. Et on expérimente une délivrance merveilleuse parce que lorsqu'on connaît la vérité, cette vérité nous affranchit. Lorsqu'on est ensemble, qu'on se réunit dans cette vérité de la parole écrite, la parole incarnée, et qu'on a les yeux tous ensemble, il y a quelque chose d'unique et de merveilleux qui se passe. C'est ça le dessein de Dieu avec l'héritage de l'Église locale, de l'Église qui est son corps, avec sa parole. C'est comme ça aussi que le but ultime de Dieu avec toute chose est atteint, c'est-à-dire de se glorifier comme étant le Dieu unique, véritable et saint. Et ça m'amène au troisième héritage de l'Église, non seulement celui de la vie, de la parole, mais l'héritage de la gloire. Et on a commencé avec ce verset-là, j'aimerais le relire, verset 22. « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un comme nous sommes un. » Donner la gloire afin qu'ils soient un comme nous sommes un. La gloire de Dieu, c'est cet autre élément unificateur des enfants de Dieu. Regardez aussi le verset 11. Je ne suis plus dans le monde, ils sont dans le monde, et je vais à toi, Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné. C'est par la grâce de Dieu qu'on est gardé. Si Dieu ne nous gardait pas, on serait tous perdus, on serait tous égarés. Nous étions tous comme des brebis. Tous allaient chacun selon sa propre voie, mais l'Éternel lui-même a fait tomber sur Christ l'iniquité de nous tous. Il nous a ramenés au souverain berger de notre âme. Et il y a quelque chose qui fait que une église comme la nôtre, on est unis de la même façon que le Dieu trinitaire est uni en lui-même. Il y a une unité spirituelle. Nous aussi, on est basés sur des faits qui nous unissent ensemble. On croit que la parole de Dieu est la parole de Dieu. On croit qu'elle est la révélation de Dieu infaillible, inhérente. On croit à la personne et à l'œuvre de Christ. Amen. Que Christ est Dieu fait homme qui est venu accomplir toutes les promesses faites au Père dans l'Ancien Testament, qui est venu les accomplir et que maintenant, c'est ce qui se propage à travers l'Église. Nous croyons, nous recherchons la gloire du Père à travers tous les aspects de notre vie par Jésus-Christ, son Fils. N'est-ce pas? Ah, bien maladroitement, mais on cherche ça, c'est ça qu'on veut. On aspire au moment où nous serons tous unis ensemble, 100%, sans péché, sans rien. On a hâte, on soupire après cette délivrance. Et on aspire aussi, on soupire à cette pleine vie par l'Esprit, ici-bas sur terre. Cette vie remplie de l'Esprit, qui porte le fruit de l'Esprit. Vous rendez-vous compte que toutes ces choses, c'est l'héritage de la gloire dans l'Église. Et c'est absolument unique dans le monde. Ces choses-là ne sont pas recherchées dans le monde, ne sont pas vécues dans le monde, elles sont saintes, dans le sens de à part, hors catégorie, incomparables, introuvables ailleurs. Elles ne se trouvent qu'en la personne et l'œuvre de Jésus-Christ et dans son corps qui est l'Église. Que le Saint-Esprit nous ouvre les yeux ou qu'il nous donne un esprit de sagesse et de révélation par rapport à combien précieux, unique et grandiose, saint est l'héritage que nous avons. C'est un joyau précieux qu'on doit chérir, garder, qu'on doit, par tous les moyens, garder comme étant ce qu'on a de plus précieux, un trésor ici sur terre. Oh, que personne ne foule aux pieds ce trésor précieux. Écoutez, deux versets par rapport à ça. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau que le Saint-Esprit sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église de Dieu qui s'est acquise par son propre sang. C'est pas rien. Et regardez aussi Hébreux 11, 26. De quel pire châtiment pensez-vous sera-je digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'Alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'Esprit de la grâce. C'est solennel ce qu'on considère. Puis à ce sujet-là, je vais terminer avec cette idée-là. Si quelqu'un décide, et c'est peut-être quelqu'un qui est ici et qui contemple ça, peut-être quelqu'un que vous connaissez, quelqu'un qui n'est pas ici justement, qui considère d'abandonner son assemblée. Vous connaissez le passage? N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Lorsqu'on décide d'abandonner, on abandonne la façon dont Dieu lui-même a décidé de manifester sa sagesse rédemptrice. Savez-vous que Dieu nous dit que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu? Amen. On se pense-tu plus sage que Dieu? Est-ce qu'on croit qu'on connaît mieux? Est-ce qu'on a tant une fausse assurance, une autosuffisance qui fait qu'on pense qu'on peut passer à côté de cette bénédiction incroyable que Dieu nous a donnée dans une Église comme la nôtre? Qu'on se rend compte de la gravité de négliger cet héritage merveilleux qu'est l'Église. Oh, mes amis, si vous êtes ici, puis vous ne connaissez pas encore cette vie, si la parole pour vous, ce n'est pas cette perle de grand prix, cette parole écrite qui nous parle de cette parole incarnée en Jésus-Christ, ne tournez pas le dos à une grâce si merveilleuse de notre salut en Jésus-Christ. Tournez pas le dos à l'amour de Dieu manifesté par son corps, comme une place ici. Ou est-ce que l'amour de Dieu vous est proclamé par la bouche des personnes qui sont ici? Vous avez des gens qui vous écoutent, des gens qui vous aident avec leurs mains, qui vont vers vous avec leurs pieds. C'est le corps de Christ en action qui vous appelle à être réconcilié avec lui. Si c'est votre situation, vous ne connaissez pas Dieu, je lance cet appel au nom de Jésus-Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Pour vous qui êtes sauvés ici ce matin, regardez comment le texte qu'on a sous les yeux ce matin nous relate comment Dieu transforme non seulement notre vie, nos cœurs, notre Église, mais savez-vous qu'il a complètement changé nos relations avec le monde? Complètement. Nous sommes donnés à Jésus-Christ hors du monde. Dieu nous a pris dans le monde. Verset 6, il nous a mis hors du monde. Verset 11, il nous a laissés dans le monde. Même si on n'est pas du monde, verset 14. Nous sommes haïs par le monde, verset 14 encore. Nous sommes préservés dans le monde. Nous sommes envoyés dans le monde. Et nous sommes manifestés au monde par l'unité. Tu sais, à ceci, tous connaîtront que vous êtes les miens, à l'amour que vous avez les uns pour les autres, et cet amour-là se vit dans l'unité spirituelle du corps de Christ. Voyez-vous comment l'Église est sainte? Parce que notre Dieu est saint. La nature même de l'Église, elle est sainte, elle est à part, il n'y a rien. La vraie Église, il n'y a rien comme ça. Rien. La vocation de l'Église est sainte. Sa destinée est sainte. Tout par rapport à l'Église, c'est saint, c'est unique, c'est merveilleux. Quel privilège d'y avoir part. Ne prenons pas à la légère ce que Dieu a mis de plus précieux ici sur terre. L'Église qui s'est procurée par son propre sang. Alors, mon exhortation ce matin, c'est de venir implorer Dieu à la lumière de ce verset avec lequel je termine, puis je vais prier par la suite. Après cela, je regardais et voici. Il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toutes les nations, de toutes tribus, de tout peuple et de toute langue. Il se tenait devant le trône et devant l'agneau, revêtu de robes blanches et de palmes dans les mains. Il criait d'une voix forte en disant, « Le salut est à notre Dieu, qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Et tous les anges se tenaient autour du trône, et des vieillards et des quatre êtres vivants, et se prosternèrent sur leur face devant le trône, et adorèrent en disant « Amen ». La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance, la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Amen. Quel grand Dieu tu es, Seigneur, on veut vraiment te louer, t'adorer. Merci de nous ramener encore, Seigneur, à ces vérités si précieuses de ta parole. Merci de ce que tu as fait de nous en Jésus-Christ, non seulement individuellement, mais Seigneur, c'est toi qui bâtis ton Église. C'est toi qui es en train de bâtir cette Église. Et Seigneur, tu manifestes quelque chose de tellement spécial et de précieux sur toi, Seigneur. C'est glorieux. Tu dis que tu manifestes ta sagesse infiniment variée par une Église comme la nôtre, par ton corps, partout sur la terre. Oh Seigneur, on veut te louer. Et Seigneur, je t'invoque, je prie que tu puisses continuer cette œuvre. On a vu, Seigneur, la mort veut s'installer partout dans le monde, veut s'installer dans nos vies. Mais Seigneur, que ta vie expulse cette mort. Seigneur, que ta parole vivante porte beaucoup de fruits au milieu de nous autres et que ta gloire, la gloire de ta présence même soit manifestée au milieu d'un peuple faible comme nous autres. Oh, non pas à nous, non pas à nous la gloire, mais à toi seul, l'Éternel. On te prie au nom de Jésus. Amen. Amen, si vous voulez prier, c'est maintenant le moment où vous pouvez...